une entreprise. Je prends ici le contre-pied d'une mode dans laquelle on essaye de modeler l'Église avec des stratégies d'entreprise. Il y a des choses intéressantes au niveau des entreprises, mais si elles ne sont pas adaptées à la réalité de l'Église, je crains qu'on pervertisse le fonctionnement de l'Église. Et ce que j'ai essayé de vous dire hier, c'est de répondre à ce qu'est l'Église, quelle est son identité à travers une question, mais à quoi sert donc l'Église? Sachant que nous connaissons tous des chrétiens blessés qui mettent en cause le besoin de vivre en Église. Et je vous ai dit, j'ai essayé de vous dire que la question de l'utilité de l'Église était une question déplacée d'abord parce que l'Église est une affaire d'amour et non pas d'utilité. J'ai ensuite dit que c'était une question risquée parce que l'Église est une invention redoutable dans laquelle le Seigneur nous bouscule pour nous sanctifier. J'ai parlé enfin d'une question trop limitée parce que l'horizon de l'Église, ce n'est pas le présent, c'est l'avenir, c'est l'espérance. Et s'il y a un lieu où l'espérance doit être chantée, vécue, c'est l'Église. Et nous en avons besoin pour avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet, toujours dans la même veine, c'est la question de la croissance de l'Église. Je crois que nos églises doivent grandir, mais encore faut-il s'entendre sur ce que nous disons par croissance. Et surtout, il faut nous souvenir que la croissance n'est pas une affaire d'homme dans l'église. Elle n'est pas une affaire de méthode. Elle n'est pas une affaire de stratégie. Je pourrais vous raconter ce qu'il faut faire pour qu'il y ait du monde, mais je ne suis pas sûr que ça fasse église. C'est ça le problème. Et donc, je vais essayer avec vous, à partir d'un texte de l'Écriture, mais je vais déborder de ce texte, de vous faire réfléchir sur la croissance de l'Église, en vous disant, l'Église, la croissance de l'Église n'est pas d'abord une affaire d'homme. Et je vous invite à lire un texte très connu, dans Actes au chapitre 6. À cette époque-là, nous sommes donc à Jérusalem, c'est l'Église mère de toutes les églises, hein, celle qui est née à la Pentecôte, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Vous voyez que les problèmes dans l'Église ne sont pas nouveaux. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Je fais une parenthèse. Les apôtres ne se sont pas transformés en organisateurs de l'Église. Ils ont confié cela à d'autres pour ne pas perdre de vue l'essentiel de leur ministère. Je referme cette parenthèse et je reprends le texte. Cette proposition convainc tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à la prière. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Aide-nous à la comprendre et surtout à en vivre pour t'honorer et te glorifier. Au nom de Jésus. La croissance de l'Église n'est pas d'abord une affaire d'homme. Et je vous propose, comme à mon habitude, en trois temps, de voir cette croissance sous divers aspects. Mais je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée en Australie, en l'an 2000, lors d'un congrès international baptiste. Il y avait là des secrétaires généraux de différentes unions baptistes. Et l'un d'entre eux, lors d'un échange, nous a dit, écoutez bien, dans mon pays, il y a chaque année quasiment plus de conversions que d'habitants. Vous entendez? Plus de conversions que d'habitants. L'homme qui parlait à cette époque était secrétaire général des églises baptistes du Mizoram. Alors tout le monde connaît le Mizoram, évidemment. C'est un tout petit état de l'Inde qui est pris en sandwich entre le Bangladesh et qui est tout à fait à l'est et la Birmanie. C'est l'un des plus petits états de l'Inde, mais il a une caractéristique exceptionnelle. Écoutez bien, le pourcentage de chrétiens dans cet état est de 87%. 87%. Je ne connais pas beaucoup de pays qui ont un tel pourcentage de chrétiens. Pour vous donner une idée plus concrète de la pénétration du christianisme évangélique, les seuls baptistes dans ce petit état comptaient 537 églises locales qui rassemblaient 103 000 membres alors que la population totale de l'état est d'un million de personnes. Il y a 10% de baptistes. Et je n'ai pas l'outrecuidance de croire qu'il n'y a que les baptistes qui sont chrétiens, mes amis. Mais mon homologue Miso, les gens du Mizoram, on les appelle des Miso, ajoutait à ce constat de très nombreuses conversions un commentaire un brin cynique. Écoutez, il y a plus de conversions que d'habitants au Mizoram, mais, ajoutait-il, la criminalité n'a pas baissé d'un pouce. Devant notre air interloqué, il a ajouté, la conversion est devenue un phénomène social, une mode à laquelle on s'adonne, mais qui est rarement suivie d'un changement profond. Alors le propos fait réfléchir. Quand, comme vous et moi, je l'espère, nous prions, nous œuvrons pour la croissance des églises en France. Et cela nous rend attentifs à certains défis propres à la croissance de l'Église, qui, sous peine de superficialité, n'est pas d'abord une affaire d'homme, mais de place faite à la parole de Dieu et à l'Esprit en son sein. Et donc, je voudrais vous parler de la croissance véritable qui est d'abord le fruit de la vie nouvelle, de la croissance véritable qui est l'œuvre conjointe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais vous rappeler une évidence. Pour une croissance véritable, il faut mettre Christ au centre. Parce que être religieux, c'est facile. Mais suivre le Seigneur et s'attacher à ce qui compte, c'est autre chose. Alors, parlons d'abord de la croissance véritable fruit de la vie nouvelle. Quand on parle de croissance, il faut préciser de quoi l'on parle. Le Nouveau Testament utilise plusieurs mots pour évoquer l'idée de croissance. Je vais me limiter à une exception près, à une seule famille de mots pour les besoins de ce message. Il y a un verbe dans la langue originale, oxano en grec, qui veut dire faire croître, augmenter, pousser, se multiplier, se répandre. Et il y a un mot, un substantif, oxésis, qui parle de croissance et d'accroissement. Les mots de la famille d'oxano sont utilisés pour montrer l'effet de l'œuvre de Dieu par analogie avec la croissance de la nature. Excusez-moi, j'y reviendrai tout à l'heure. Écoutez ce texte. Le royaume de Dieu, dans Matthieu 13, ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Vous voyez, ce pousse, c'est l'analogie pour parler de la croissance de l'évangile dans le monde. Dans le livre des Actes, comme nous venons de le lire, ce vocabulaire est utilisé pour parler de l'activité missionnaire de l'Église et les effets de cette activité. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Alors, deux indications à partir de ces quelques mentions bibliques. Première indication intéressante pour notre réflexion, la croissance numérique de l'Église est toujours liée à la proclamation de la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu se répand, plus l'Église grandit. Nous verrons néanmoins qu'il n'en est pas toujours ainsi. On peut ajouter ici l'emploi d'un autre verbe, périsseo, faire abonder, surabonder, exceller, que vous trouvez dans Actes 16 au verset 5. C'est les fameuses communications qui ont été faites après le concile dit de Jérusalem. Il y avait une grande dispute entre les apôtres. Est-ce qu'il faut imposer aux païens qui se convertissent les prescriptions de la loi juive? Et donc, on va limiter le nombre de ces prescriptions auxquelles les païens doivent aussi se soumettre. Et alors, on communique le résultat de ce concile et le texte nous dit « Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. » Deuxième indication intéressante, la croissance de l'Église est aussi liée à l'affermissement de la foi des disciples. Ici, en raison du travail des apôtres pour maintenir l'unité de l'Église. Il y a en fait un triptyque: parole, foi, Église, où l'un des éléments, l'Église, est nourri par les progrès des deux autres. Quand la parole est proclamée, quand la foi est affermie, alors l'Église grandit. Nous y reviendrons. Dans les épîtres de Paul, ce même vocabulaire permet d'indiquer que Dieu seul peut faire croître l'Église en nombre et en maturité. Vous connaissez tout ce texte, il est très important. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Autre verset, toujours de l'apôtre Paul, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Toujours le même principe, c'est Dieu qui fait croître. Deuxième élément, Dieu utilise pour cela les ministères d'édification, ce qu'il appelle aussi dans certaines traductions les articulations. Sous la direction de Jésus-Christ, écoutez bien, Éphésiens 4, 16, c'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, et ce sont les ministères, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Troisième remarque, le croyant est appelé à croître dans la foi. Il y a la croissance de l'Église, mais la croissance aussi du croyant. Progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Où notre foi trouve-t-elle le carburant pour s'affermir, pour grandir dans la parole? C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons au Christ avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter, dit Paul, ce qui manque à votre foi. Il parle là aux Thessaloniciens. Deuxième petit insiste sur la foi qui grandit, grandit par l'obéissance du croyant dans la communion de l'Église. En effet, dit Paul, votre foi fait de magnifiques progrès ou abonde de plus en plus. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Pour le dire autrement, mes amis, il n'existe pas de chrétien Robinson Crusoe seul sur le ring. C'est une fiction. Le croyant est incorporé à l'Église et il a besoin de l'Église pour grandir. Une foi qui permet à l'apôtre de faire grandir l'œuvre. Au contraire, nous espérons, dit-il aux Corinthiens, qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira dans les... Ainsi annoncer la bonne nouvelle dans des régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Voilà, un rapide survol de la notion de croissance dans le Nouveau Testament qui va me conduire à faire maintenant des remarques un peu structurantes sur le sujet. La première est la suivante. La croissance a toujours une double dimension, comme dans le monde vivant par ailleurs. La croissance, elle est quantitative et qualitative. Mais les deux sont nécessaires. Mais dans un certain ordre, la dimension vitale est d'abord et surtout qualitative. Quant au nombre, c'est souvent une réalité ambiguë dans l'Église. Nous devons l'appréhender avec discernement. Le nombre ne dit pas tout. Jésus a attiré les foules, mais n'a formé que 12 hommes pour bâtir son Église. Et à l'heure critique, il s'est retrouvé seul ou presque. Il y a pour moi un passage très significatif dans l'évangile de Jean. Écoutez bien. Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Et même la traduction pourrait se dire, mais Jésus ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous très bien. J'attire aussi votre attention sur une chose qui n'est pas souvent relevée. Dans les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, jamais le nombre n'est célébré. Jamais. Il n'est pas non plus dénoncé. Mais on ne dit pas, oh, quelle grande église. Jamais. La dimension numérique ne semble pas dans le champ de l'apôtre Jean, mais beaucoup plus la question de la qualité. Et l'apôtre Jean va dénoncer sous l'inspiration de l'esprit l'indigence de la dimension qualitative de ces églises. Écoutez bien, la perte du premier amour, le laxisme à l'égard des hérétiques et des débauchés, les apparences trompeuses, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, la tiédeur. Ce ne sont pas des critères quantitatifs, mais qualitatifs. Certaines de nos missions, trop perméables aux impératifs de performance quantitative de nos sociétés occidentales, se préoccupent à mon sens trop de résultats immédiats et pas assez de réalité spirituelle. Ce qui conduit parfois les missionnaires à rédiger des rapports biaisés où toute participation d'un incroyant à une rencontre prend l'allure d'une victoire spirituelle. Merci beaucoup. D'une victoire spirituelle majeure, voire d'une conversion spectaculaire. Je me souviens très bien, dans un dialogue un peu houleux avec des représentants de cette grande mission américaine dont j'ai parlé hier, l'un de nous deux nous disait « Il y a eu aux Pays-Bas un mouvement d'implantation d'églises. 18 églises ont été implantées. » Formidable. Mais quand on a demandé si elles existaient toujours, et on était 2 ou 3 ans après, non. Non, elles n'existaient plus. En fait, ils avaient fait du travail auprès des réfugiés, un travail social, et donc ils ont eu facilement 18 groupes. C'est pas le problème. Et c'est très bien de le faire. Mais de le transformer en 18 églises, c'est abusif. C'est abusif. L'église s'inscrit dans la durée. Deuxième réalité, la croissance quantitative ou numérique de l'Église est essentiellement rapportée dans le livre des Actes, c'est-à-dire dans un texte descriptif, un récit. Et elle est sous la forme d'un résultat, souvent au moyen d'une tournure passive, comme si les hommes n'y étaient pour rien. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas une réalité que les hommes semblent avoir entre les mains, et c'est encore moins un objectif à atteindre. D'ailleurs, contrairement à la croissance qualitative, la croissance quantitative ne fait jamais l'objet d'aucune injonction, d'aucun impératif dans les textes prescriptifs que sont les épîtres. Une seule. Il y a une seule indication de type, je dirais, numérique, c'est fait de toutes les nations des disciples. Mais ce tout, vous le savez, c'est des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Ce ne sont pas tous les hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Elle est, cette injonction, selon les parties du récit considérées, le fruit de la prédication, plutôt la croissance, le fruit de la prédication accompagnée ou non de signes et de prodiges, mais parfois, la croissance est aussi la conséquence des persécutions. Vous le savez. Hein? C'est Tertullien qui dira que le sang des martyrs est une semence de l'Évangile. Le corollaire de la manifestation de l'amour mutuel et de l'affermissement de la foi des croyants. Pourquoi beaucoup de gens se détournent de nos églises? Vous savez pourquoi? Parce que nous prêchons l'amour, mais nous ne le vivons pas. Or, à quoi reconnaîtront que nous sommes ses disciples, sinon à l'amour que nous avons les uns pour les autres? Troisième remarque. La croissance qualitative, c'est-à-dire dans la foi et dans la maturité, est au cœur des préoccupations apostoliques. Les Épîtres consacrent de nombreux passages à décrire les contours et les modalités de cette foi et de cette maturité et à inviter les croyants à y travailler. Ainsi, l'apôtre Pierre dira-t-il à ses lecteurs, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir ce lait en vue du salut. Ou encore, toujours Pierre, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, et il continue, car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actives et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dernière remarque, la croissance véritable, qu'elle soit quantitative ou qualitative, est un mystère dont Dieu seul est l'auteur. Nous devons certes désirer ardemment et travailler sérieusement à la croissance et de nos vies avec le Seigneur et de notre Église, mais nous devons toujours rester humbles et confiants. L'histoire de l'Église et des missions nous apprend que celui qui sème ne moissonne pas toujours et que celui qui moissonne recueille parfois le fruit du labeur de ceux qui l'ont précédé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Charles Marsh? Charles Marsh qui a été l'un des pionniers de l'évangélisation en Afrique du Nord. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Impossible à Dieu ». Il a passé 10 ans sans voir une seule conversion dans son travail. Alors, à vue humaine, c'est du temps perdu. C'est de l'argent perdu. D'un point de vue spirituel, Dieu a permis, avec Charles Marsh et d'autres, mais Charles Marsh a joué un rôle important, d'ouvrir une porte. Au bout de 10 ans, il a eu un converti. Et vous savez ce qui est arrivé à ce converti? Il a été empoisonné par sa famille. Donc, premier converti qui meurt. Et je pourrais multiplier les exemples de missionnaires qui sont partis, vaillants. Je pense à ces 4 jeunes qui sont partis dans la zone soudano-sahélienne, qui voulait mettre en place une sorte de barrage à l'islam qui descendait sur l'Afrique noire. Mais à l'époque, on n'avait rien contre la malaria ou le paludisme. Ils ont fait un premier voyage et au bout de 3 mois, sur les 4, 300 morts. 300 morts. Et le dernier est rentré. Abus humaine, perte sèche. Mais sur le plan spirituel, ça a été le début d'une mission importante en Afrique subsaharienne. Parce que le courage de ces jeunes gens a décidé d'autres à se lever au service du Seigneur. Si je devais résumer à ce stade ce que nous avons appris sur la croissance véritable dans le Nouveau Testament, je dirais que, 1, elle exige tout notre engagement pour planter et arroser. Oui. 2, sa dimension vitale, la foi et la maturité, entrent dans le champ de nos responsabilités. Nous devons faire tous nos efforts pour grandir. Tandis que sa dimension numérique relève plutôt d'une grâce surajoutée. Nous la recevons avec reconnaissance, mais nous n'avons aucune part à cette multiplication. Et je me pose en faux contre les gens qui me disent « Moi, j'ai converti quelqu'un, mais tu n'as converti personne, mon frère ou ma sœur. Tu as témoigné et le Seigneur a fait le reste. » J'en reparlerai cet après-midi. Et dernière chose, cette croissance, elle reste, quoi qu'il arrive, et quelle que soit sa dimension, l'œuvre exclusive de Dieu. Ce n'est l'église de l'Orient, ni l'église d'aucun homme. Elle est l'église du Seigneur. Hein? Les résultats encourageants ne sont pas le fruit de votre spiritualité haute et formidable. C'est la grâce du Seigneur. Accueillez cela comme un cadeau et restez simplement fidèles au donateur. Deuxième chose, et là je vais quitter le champ strictement biblique pour aller vers le champ théologique et apporter quelques éléments supplémentaires sur la question de la croissance véritable qui est l'œuvre conjointe de la parole et de l'esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un triptyque, parole, foi, église, où la croissance d'un des éléments, l'église, est nourrie par les progrès des deux autres. La foi et la parole. La chose est en réalité plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Nous savons par l'Écriture, par l'histoire de l'Église, et même par nos propres expériences, qu'il ne suffit pas que la parole de Dieu soit connue et répandue pour qu'elle touche à salut et fasse croître l'Église et les croyants. Sinon, mes amis, pourquoi les spécialistes de la loi se seraient-ils si lourdement trompés sur le sens de des Écritures et l'identité du Messie? Ils la connaissaient, cette Écriture, mais ils sont restés aveugles. Pourquoi des baptistes, réputés pour leur culture biblique, ont pu, au sud des États-Unis, justifier Bible en main des péchés aussi graves que l'esclavage, puis la ségrégation raciale? À ma honte, je suis baptiste, c'est même un pasteur baptiste qui a créé le Ku Klux Klan. Et que dire des réformés sud-africains qui ont fait de même à l'égard de l'apartheid à l'époque? Plus proche de nous, pourquoi des chrétiens de longue date dans nos communautés, capables de citer les Écritures sur le bout des doigts, semblent parfois étrangers à la grâce de Dieu? Vous n'avez jamais posé cette question? Cette triste réalité, mes amis, nous alerte sur une vérité que nous perdons parfois de vue. L'œuvre indispensable de l'Esprit pour que la parole de Dieu touche à salut et fasse son chemin dans le cœur du croyant, il faut l'illumination du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire que je trouve savoureuse. Une sergente de l'armée du salut, à une époque où l'armée du salut était encore très évangélique, distribuait des traités dans le métro. Elle était parfois bien reçue, parfois mal reçue. Et à un moment, elle a croisé un théologien protestant qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui a répondu avec une certaine condescendance, « Non merci madame, je suis théologien. » Et cette sergente de l'armée du salut a réfléchi un instant et puis elle lui a retendu le traité et lui a dit « Monsieur le théologien, le Seigneur est aussi mort pour les théologiens. » Je reviens à mon sujet. Nous pouvons ainsi préciser à propos de la régénération du croyant qu'elle a l'esprit pour agent et la parole pour instrument. Ainsi, l'apôtre Pierre dira, vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Alors mes amis, l'esprit, alors qu'est-ce que j'ai fait là, c'est pas la bonne chose, pardon. L'esprit travaille avec et par la parole de vérité pour nous régénérer. Sans qu'il y ait confusion, il y a bien un agent et un instrument qui restent distincts. Et aussi sans qu'il y ait séparation, l'esprit n'agit qu'avec la parole, de sorte que nous sommes fondés à dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en cause quand une manifestation, une prophétie, un miracle n'est pas en accord avec l'Écriture. Alors il faut rester prudent parce que notre interprétation des faits est parfois déficiente. Mais néanmoins, il faut être ferme. Ainsi donc, l'Esprit nous conduit dans la vérité tout entière, non pas en parlant de lui-même, mais en ouvrant notre cœur. Vous vous souvenez qu'à propos de Lydie, la marchande de pourpre, le livre des Actes dit « Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. » Ce « ouvrit son cœur », c'est l'illumination de l'intelligence par le Saint-Esprit pour que nous comprenions et recevons la parole qu'il a inspirée aux auteurs de la Bible. Alors, en quoi cela touche-t-il notre sujet? Eh bien, cela nous rappelle que sans l'action conjointe de la parole et de l'Esprit, toute entreprise d'évangélisation, toute vie d'église, toute piété personnelle, toute croissance en nombre et en foi ou en maturité sont vaines. Nous ne sommes pas maîtres de la vie spirituelle, nous ne pouvons pas la décréter, nous pouvons juste planter et arroser, mais nous dépendons entièrement de Dieu pour qu'il y ait croissance. En d'autres termes, pour en rester au niveau personnel, né de la parole et de l'esprit, nous avons eu besoin de nous nourrir de la première, la parole, et de marcher par le second, l'esprit, pour vivre et pour grandir. Cela m'amène à une remarque qui me tient à cœur, et ceux qui me lisent ou me connaissent savent à quel point je suis préoccupé par le peu de place que l'on fait à l'écriture aujourd'hui dans la piété personnel et dans la spiritualité communautaire. Je suis, en fait, alors j'ai remarqué que votre église est meilleure que toutes les autres. Et donc, peut-être que je vais dire des choses. Je ne sais pas si mon téléphone qui fait des interférences, mais j'entends des interférences. Je suis troublé par le trop faible usage qui est fait de la Bible dans nos communautés évangéliques. Et si ce n'est pas dans le cas dans la vôtre, eh bien, priez pour les autres, au moins. Combien de fois, parce que je circule, combien de fois lors des cultes auxquels j'ai assisté, y compris récemment, la Bible n'a pas été ouverte, ou quasiment pas, avant la prédication. Et comme c'est moi qui prêchais, j'ai tendance à ouvrir la Bible quand je prêche. Et il y a là une double erreur, mes amis. D'abord une erreur théologique. Car je le crois, notre louange est réponse à la révélation de Dieu. Et il est indispensable que nos cultes répondent à ce que Dieu nous dit de lui, et non du souvenir que nous avons de lui. Un souvenir en général imparfait. Il y a une erreur pédagogique ensuite. Car le peuple de Dieu est nourri et marqué par ce qui est dit, lu, chanté lors des cultes. Si nous ne lisons pas la Bible dans le culte, le peuple de Dieu ne la lira pas. Il ne se la remémorera pas, il n'en comprendra pas l'importance, même si nous disons l'inverse du haut de la chair. Il est temps, mes amis, que gardant la dynamique de notre louange, nous la fondions sur les textes bibliques qui révèlent la grandeur, la puissance, la sainteté et l'amour de notre Dieu, et que nous enrichissions nos cultes par la lecture publique des psaumes, par exemple. Ainsi cessera un curieux paradoxe, à savoir que les évangéliques qui invoquent souvent la Bible la lisent peu, tandis que les luthéraux réformés qui la critiquent souvent la lisent régulièrement à cause de leur liturgie. Puisque l'Esprit agit avec et par la parole, il est indispensable que nous lui donnions l'occasion de le faire en étudiant sa parole et en remettant à l'honneur les ministères de la parole. Souvent, les églises ne comprennent pas ce que font leurs pasteurs. John Stott disait que le travail chez un pasteur, c'était une notion souvent mal comprise par l'église parce que le pasteur était invisible pendant 6 jours et incompréhensible le 7e. Alors, sans aller jusque-là, quand votre pasteur ou celui qui va prêcher dimanche préserve du temps de communion avec le Seigneur, d'étude de sa parole, ce n'est pas du temps perdu. Non, il n'était pas en train de vous visiter, mais ce qu'il fait est important pour la parole, pour la croissance qualitative de l'Église. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais préparer une prédication, c'est 10, 15, 20 heures de travail. En tout cas, une prédication nourrie. Alors, on apprend à aller un peu plus vite avec l'âge. Il y a un peu de métier. Mais c'est quand même significatif. Et je n'ai rien dit des études bibliques, par exemple. Je termine par une dernière chose. Si nous voulons une passante véritable, alors il nous faut impérativement mettre Christ au centre. Une fois l'importance de la parole et donc de la prédication réaffirmée, il faut encore préciser son contenu. Car nous pouvons prêcher l'Écriture, ou plutôt nous y référer sans faire justice au message qu'elle transmet. Nous connaissons tous des églises, des prédicateurs et des églises qui font un curieux usage de la parole de Dieu. Pensez par exemple aux prédicateurs controversés et j'estime hérétique de la théologie de la prospérité. Ce que vous ne mesurez pas, c'est que derrière leurs données, il sera rendu au centuple, il y a une doctrine profondément hérétique. Écoutez ce que disent certains prédicateurs de la théologie de la prospérité. Jésus-Christ est devenu pécheur à la croix, c'est-à-dire une créature satanique. Il a subi la mort spirituelle en enfer pendant les 3 jours séparant sa mort à la croix de la résurrection. Il a ensuite vécu la nouvelle naissance. Le salut n'a pas été acquis à la croix qui a été une défaite. C'est en subissant la mort spirituelle en enfer, en étant régénéré, que Jésus-Christ nous ouvre l'accès au salut. C'est une hérésie profonde. Et j'ai été interviewé, si vous pour raconter une petite histoire, par un TikToker catholique de 25 ans qui m'a dit « Monsieur le pasteur, j'ai vu que vous aviez prêché contre la théologie de la prospérité, j'aimerais vous interviewer parce que ça fait des ravages dans la jeunesse parisienne aujourd'hui. » Évidemment, on vous promet la lune. Et alors à un moment, le prédicateur, il fait un extrait, le prédicateur dit de façon très véhémente: donnez à Dieu et vous deviendrez millionnaire. Et l'extrait s'arrête et il se tourne vers moi et il dit: qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui ai dit deux choses. C'est un faux prophète et le seul millionnaire qu'il y a ici, c'est lui. Effectivement, il est millionnaire. Hein. Ça a un attrait extraordinaire sur des foules précaires. Mais c'est un évangile tordu. C'est un évangile qui met l'homme au centre et qui détourne les gens de l'évangile véritable. Ce risque d'égarement dans l'utilisation des Écritures, conduit Paul par l'Esprit à préciser en différents endroits d'un Corinthiens 1 que le centre de l'annonce de l'Évangile, de la prédication qui sort, c'est la parole de la croix. L'annonce du Christ crucifié. La croix n'est pas une défaite. La croix est une défaite apparente, mais c'est une victoire réelle. Cette précision nous rappelle trois choses essentielles. D'abord, que l'Écriture ne se comprend droitement qu'en fonction du Christ, qui structure tout son message. Annoncé tout au long des pages de l'Ancien Testament, sa venue est relatée en détail par les Évangiles, puis la portée immédiate, future éternelle de son œuvre de salut est racontée, expliquée et annoncée par les Actes, les Épîtres et l'Apocalypse. Le penseur Pascal a résumé cela admirablement dans ses pensées, je vous en livre deux. Ainsi, dit-il, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature, c'est-à-dire dans notre nature. Deuxième pensée, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Deuxième chose à dire. Dans l'œuvre de notre Sauveur, il y a un moment décisif qui donne tout son sens à sa venue, et ce moment, c'est la croix. Enlever Golgotha, et l'œuvre du Christ reste certes exemplaire, mais elle n'est plus salutaire. Et cela fait toute la différence. Sans crucifixion, il n'y a plus de substitution. Jésus, sans crucifixion, il n'y a plus de résurrection. Et comme Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Dit autrement, la croix est la clé de voûte du salut, de toute l'œuvre du salut à laquelle Dieu a pourvu en Jésus-Christ, pour nous faire passer des ténèbres du péché et de la mort à l'admirable lumière de la vérité et de la vie, pour faire de nous qui n'étions pas un peuple, le peuple de Dieu, et pour nous obtenir miséricorde. Enfin, mes amis, la prédication de la croix, folie aux yeux de ceux qui se perdent, n'est pas comme on pourrait s'y attendre, sagesse de Dieu. Non, elle est puissance même de Dieu pour ceux qui seront sauvés. Le choix des mots est significatif. Paul affirme avec netteté que la vérité de l'Évangile ne se démontre pas par le raisonnement. Elle se vérifie dans la vie des croyants. Elle manifeste son efficacité et sa puissance par des vies transformées. Là où l'Évangile est annoncé et reçu, des hommes et des femmes vivent cette même réalité d'une vie nouvelle. Il n'est donc pas surprenant, mes amis, que la vie et l'œuvre du Christ, et particulièrement le sacrifice expiatoire à la croix, fassent depuis toujours l'objet d'attaques frontales ou plus sournoises. Vous avez une partie du monde évangélique aujourd'hui qui met en cause la substitution pénale. C'est extrêmement grave, à mon sens. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à revenir sans cesse à la croix, à exposer sa valeur expiatoire et substitutive. Il a payé pour le péché, pour notre péché, pour nous donner sa vie. Il nous faut proclamer la victoire qui a été remportée sur cette croix, sur les dominations et les principautés. Nous devons y nourrir notre espérance en attendant le jour bienheureux où nous serons toujours avec lui. Une des devises postérieures à la réforme, qui date de 1674 par la réforme de cette devise, c'est ceci. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbi Dei. Vous avez tous compris. Mais voici la traduction. L'Église réformée a toujours besoin d'être réformée en accord avec la parole de Dieu. Dans une intéressante notice sur le site de la Gospel Coalition, Kevin DeYoung rappelle qu'il n'y a rien de réformé à vouloir changer la théologie et les positions éthiques pour être du bon côté de l'histoire, ou pour rester en phase avec les données des sciences sociales, ou même pour prouver que nous aimons tout le monde. Il ajoute, la devise de la réforme, ce n'était pas en avant, mais en arrière, dans le sens, il faut retourner aux sources. Semper reformanda, toujours réformé, ne vise pas des fluctuations constantes, mais des fondations fermes. Cela désigne une adhésion radicale à l'Écriture sainte, quel qu'en soit le prix pour nous-mêmes, pour nos traditions ou pour notre appréciation faillible de ce qu'est la pertinence culturelle. Vous savez, et je termine par là, en matière de croissance, l'Église n'a décidément rien d'une entreprise qui dépendrait pour sa croissance d'une étude de marché, de stratégie de marketing et de bonnes techniques de management. Rien de tout cela n'est à mépriser, j'en dirai quelques mots cet après-midi, mais la vitalité de l'Église tient à la fidélité d'abord à la parole de Dieu et à l'écoute de l'Esprit Saint qui lui est conjoint. Que le Seigneur vous fasse la grâce, nous fasse la grâce d'une telle fidélité, qui passe par cette capacité à toujours nous réformer en accord avec la parole de Dieu. Amen.